Vous écoutez « On lit pour vous ».
De la terre plutôt que du gypse dans nos murs, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2025 dans la presse. Les panneaux de gypse devraient être faciles à recycler. Pourtant, ce n'est pas le cas en pratique. Un chercheur de l'Université Laval a trouvé une solution: remplacer le gypse par de la terre. Le procédé développé par l'Université Laval permet d'utiliser de la terre crue, c'est-à-dire non chauffée, plutôt que du gypse, un minéral qui doit être chauffé à très haute température à la première étape du processus, nommée la calcination. On enlève l'étape au début de la production des panneaux, qui consomme beaucoup d'énergie, explique Pierre Blanchet, ingénieur spécialisé en bois à l'Université Laval, qui publie ses résultats dans la revue Construction and Building Materials. En théorie, les panneaux de gypse sont recyclables. Mais dans les faits, ils le sont rarement et sont envoyés à l'enfouissement avec des déchets variés de construction, selon M. Blanchet. Un panneau est composé de gypse ayant été soumis à la calcination, enfermé entre deux feuilles de papier, souvent appelées feuilles de gyproc, selon le nom de la marque de commerce. Les tests en laboratoire ont permis de constater que remplacer le gypse par de la terre non chauffée entre les couches de papier d'un panneau est faisable dans les usines existantes et que les coûts et la performance semblent acceptables. Un projet pilote dans un chantier de construction est envisagé. Selon les évaluations préliminaires de M. Blanchet, remplacer les panneaux de gypse par des panneaux de terre épargnerait 200 000 tonnes de déchets par année, puisque ces derniers sont plus facilement recyclables. Terre crue. L'idée est née il y a 2 ans, lors d'une discussion informelle avec des gens de l'industrie de la construction. « Je suis titulaire d'une chaire sur les bâtiments durables, » dit M. Blanchet. « On tient compte du confort de l'occupant et de la fin de vie des matériaux. En construction, on consomme 40% des matériaux utilisés par l'humain sur la planète. J'ai entendu parler des panneaux de gypse à cette rencontre et j'ai pensé me pencher sur le sujet. Le chercheur de Québec avait entendu parler d'utilisation de la terre crue en Belgique pour faire des briques. La terre crue n'est pas chauffée, ce qui diminue l'énergie nécessaire à la fabrication du matériau. À noter, les briques utilisées au Québec sont chauffées. La prochaine étape, outre le projet pilote, est l'évaluation du cycle de vie des panneaux muraux en terre crue pour voir si leur durabilité est bonne et donc si leur coût est comparable. A priori, on pourrait les fabriquer dans les mêmes usines que les panneaux de gypse, avance M. Blanchet. Il veut aussi tester la proportion de fibres de bois à intégrer à la terre crue pour que la performance atteigne un niveau comparable à celui des panneaux de gypse. L'analyse de cycle de vie permettra aussi de calculer l'énergie épargnée. La proportion de fibres de bois ne dépasserait pas 4%, ce qui ne constituerait pas un problème quant aux normes incendies. Les panneaux de terre crue devrait bloquer le son davantage que le gypse, ce qui donnerait un avantage à cette solution écologique, selon Pierre Blanchet. Est-ce que la présence de matière organique et donc de bactéries dans la terre posera problème? Il faut le moins de matière organique, notamment parce que ça diminue la résistance au feu, répond-il. On ne prend pas le topsoil. Humus. Selon les chiffres du Bureau des mines et de l'Association du gypse des États-Unis, les panneaux de gypse d'une nouvelle maison américaine ont généré 1 à 2 tonnes d'équivalent CO2 en gaz à effet de serre, GES, ce qui équivaut à la quantité moyenne de GES émise par une voiture en 2 à 4 ans aux États-Unis. En 2025, 25 milliards de pieds carrés de panneaux de gypse, 4 pieds par 8 pieds, se sont vendus aux États-Unis comparativement à 15 milliards en 1970, selon l'Association du gypse. La petite histoire des panneaux de gypse. Le gypse est exploité depuis l'Égypte ancienne. Il était utilisé sous forme de plâtre dans les environnements secs pour recouvrir les murs. Les fresques européennes de la Renaissance étaient plutôt faites avec du plâtre de chaux, parce que le gypse tolère mal l'humidité. C'est pour cette raison qu'il faut des panneaux spéciaux de gypse avec une protection supplémentaire pour les salles de bain. À la fin du 18e siècle, le chimiste français Antoine Lavoisier a identifié la composition chimique du gypse, ce qui a mené à la commercialisation du plâtre de Paris. Les panneaux de gypse ont été inventés à la fin du 19e siècle à New York pour remplacer la manutention du plâtre dont on enduisait les murs de lattes de bois. Au départ, les feuilles de gypse, surnommées panneaux sacket, du nom de leur inventeur, mesuraient 3 pieds par 3 pieds. Il a fallu attendre les années 1960 pour que la taille actuelle, 4 pieds par 8 pieds, s'impose. C'était « De la terre plutôt que du gypse dans nos murs », un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2025 dans la presse.
Les inégalités persistent entre la salle et la cuisine. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 15 octobre 2025 dans la presse. S'ils appréhendaient une baisse de salaire avec l'entrée en vigueur en mai 2025 de la loi 72, qui permet aux clients des restaurants d'ajouter le pourboire sur le montant de la facture avant l'ajout de la TPS et de la DVQ, comme le veut la Convention, les serveurs continuent d'empocher un salaire nettement supérieur à celui de leurs collègues en cuisine. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage mené en mai par l'Association Restauration Québec, ARQ, dont les résultats ont paru dans le dernier numéro du bulletin de l'industrie ARQ Stat. Avec un taux horaire moyen variant entre 14 et 12 $ et 15,98 $, auquel s'ajoute une moyenne de 28,65 $ en pourboire, les employés au service en salle demeurent les mieux rémunérés parmi l'ensemble du personnel, indique l'association dans un communiqué. De leur côté, les chefs cuisiniers gagnent entre 25,24 $ et 26,12 $, auxquels s'ajoutent 5,10 $ en pourboire s'ils en reçoivent via la convention de partage au sein de l'établissement. Actuellement, le taux horaire minimum avec pourboire est fixé à 12,90 $. En raison de cet écart salarial, sensiblement le même qu'en 2024, l'ARQ a l'intention de continuer à multiplier les démarches auprès du gouvernement afin que celui-ci permette aux propriétaires de restaurants de gérer le partage des pourboires entre les employés de la salle à manger et ceux qui sont derrière les fourneaux. En vertu de la loi sur les normes du travail, ce sont les serveurs qui décident s'ils veulent ou non partager leur pourboire avec leurs collègues en cuisine et dans quelle proportion. Les patrons ne peuvent intervenir. Au cours des dernières années, plusieurs d'entre eux, notamment Jean Bédard, président et chef de la direction de Lacage, brasserie sportive, et Éric Lefebvre, PDG du groupe d'alimentation MTY, ont affirmé qu'un changement législatif s'imposait pour réduire les inégalités. Le but n'est pas que les employeurs touchent au pourboire, insiste Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ. L'objectif, dit-il, est d'assurer un meilleur partage pour détruire le sentiment d'iniquité. Encore une pénurie. Par ailleurs, selon les données recueillies lors du sondage, la pénurie de main-d'œuvre qui a frappé de plein fouet les restaurateurs au cours des dernières années ne semble pas s'être résorbée. Près de 44 % des répondants affirment avoir encore des postes à pourvoir à temps plein en cuisine et 40 % en salle à manger. C'est ce qui explique en partie pourquoi 38 % d'entre eux ont actuellement recours à des travailleurs étrangers temporaires, TET. Or, les nouvelles règles, mises en place par le gouvernement fédéral à l'automne 2024, limitent à 10 % de l'effectif la proportion des travailleurs étrangers temporaires pouvant être embauchés par une entreprise. Les permis, qui étaient d'une durée de 2 ans, sont maintenant en vigueur pour 1 an seulement. Dès qu'ils les reçoivent, les employeurs doivent presque déjà amorcer une demande de renouvellement de permis. À noter qu'à Montréal et à Laval, les entreprises ne peuvent même plus faire appel au TET puisque le taux de chômage y est plus élevé qu'ailleurs. Les conséquences de la nouvelle limite de TET permise, soit 10 % de la masse salariale, se font déjà sentir, indique l'ARQ. En effet, ils sont 15,6 % des répondants à avoir dû diminuer le nombre d'heures d'ouverture de jour et 9,4 % en soirée. De plus, pour 9,4 % d'entre eux, c'est carrément une diminution des jours d'ouverture de leur établissement. C'était « Les inégalités persistent entre la salle et la cuisine », un texte de Nathaël Morissette, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse.
Entente entre Ottawa et Québec sur les maladies rares, de grandes promesses, peu de réponses. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse. 8 mois après la signature d'une entente fédérale de 305 millions destinée aux maladies rares, les organismes concernés n'ont toujours rien vu et Québec ne précise pas comment l'argent a été utilisé. C'est un dossier très préoccupant, affirme Jonathan Pratt, directeur du Regroupement québécois des maladies orphelines, RQMO. En mars 2023, Ottawa a annoncé une stratégie nationale de 1,5 milliard pour financer les médicaments traitant les maladies rares, dont 1,4 milliard de dollars devaient être versés aux provinces et territoires dans le cadre d'ententes bilatérales. L'objectif, faciliter le dépistage, le diagnostic et le traitement d'environ 3 millions de Canadiens atteints de l'une ou l'autre des 7000 à 8000 maladies rares connues, souvent sans traitement ou avec des médicaments hors de prix. On n'a jamais eu de réponse. Les négociations avec le Québec ont duré 2 ans. Rappelle M. Pratt. Le 21 mars 2025, Québec signait enfin son entente. 305 millions sur 3 ans pour soutenir l'accès aux médicaments nouveaux et existants, le diagnostic précoce et le dépistage des maladies rares, ainsi que le plan d'action québécois sur les maladies rares 2023-2027, précisait le communiqué. Depuis, rien. Un tiers de la somme devait pourtant être dépensée avant le 31 mars 2025. Comment? Où? On n'a jamais eu de réponse à nos questions, déplore M. Pratt. Sollicité par la presse, le ministère de la Santé du Québec répond que les médicaments destinés au traitement des maladies rares sont couverts par l'entremise du Régime général d'assurance médicaments, RGAM, lequel couvre l'ensemble de la population, ce qui est unique au Canada. Le financement obtenu contribue à soutenir l'inscription des médicaments dont la valeur thérapeutique a été reconnue par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, ajoute le ministère, tout en précisant qu'il n'est pas possible de fournir une ventilation plus précise des montants à ce sujet. Une réponse qui ne dit toutefois rien sur l'utilisation concrète des 305 millions. Demande d'accès à l'information. La députée libérale Marwa Rizki s'est saisie du dossier. Elle a interpellé le gouvernement en chambre et déposé une demande d'accès à l'information. Personne dans le réseau, que ce soit les chercheurs ou les médecins, ne sait où est cet argent. Honnêtement, si l'argent avait déjà été distribué dans n'importe quel groupe de recherche pour les maladies rares et orphelines, on le saurait déjà, dit Marwa Rizki, députée libérale. Recherchiste de Marwa Rizki, François Bégin a reçu, le 7 novembre, la réponse à sa demande. Une lettre signée par la responsable, José Martel, y précise qu'aucune reddition de compte n'est attendue du gouvernement fédéral. Le document fourni, l'entente officielle entre Ottawa et Québec, accessible sur le site du gouvernement fédéral, ne permet pas de savoir où sont passés les 305 millions. Cette réponse n'est pas conforme à notre demande et ne nous permet aucunement de savoir comment le gouvernement à utiliser les montants à sa disposition, réagit M. Bégin. Un grand écart avec d'autres pays. Sur le terrain, les attentes sont considérables. Le plan d'action québécois sur les maladies rares, adopté en 2023, prévoit 38 mesures, dont la création d'un registre provincial, l'accès plus rapide aux tests génétiques, et le soutien à la recherche sur des maladies comme la maladie de Huntington qui frappe la famille de Nathalie de Passillé. On estime que plus de 90 % des maladies rares n'ont aucun traitement. Jonathan Pratt, directeur du Regroupement québécois des maladies orphelines. Selon M. Pratt, les 305 millions pourraient notamment financer un registre des maladies rares, accélérer les évaluations de médicaments et améliorer l'accès aux essais cliniques. Quand une compagnie dépose un dossier à Santé Canada, ça prend environ 2 ans avant que le patient ait accès aux médicaments. En France, en Belgique ou en Espagne, on parle d'à peu près 3 mois. C'est ridicule à quel point l'écart est grand, déplore-t-il. Gilles Tossing, chercheur en neurosciences au CHUM, est du même avis. Le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. C'est ce qui manque tout le temps. Un tournant pour la communauté. Pour la communauté, l'enjeu dépasse la simple reddition de compte. C'est la première fois que le Canada met de l'argent pour les maladies rares. C'est historique. C'est la première fois qu'il y a une stratégie. C'est la première fois qu'il y a de l'argent, résume Jonathan Pratt. La RQMO, Ataxi Canada et plusieurs autres associations de patients ont signé une lettre qu'ils comptent remettre sous peu au ministère de la Santé. Ce qu'on veut, c'est que l'entente qui a été signée de bonne foi soit respectée, conclut Jonathan Pratt. C'était entente entre Ottawa et Québec sur les maladies rares, de grandes promesses, peu de réponses. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse.
Et si la lecture redevenait une affaire de cœur, pas de devoir? Un texte d'Agathe Topoula-Kabola, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse. J'ai perdu le goût de lire au secondaire. Je m'en souviens encore. Les romans imposés, les fiches de lecture à remplir, les analyses de personnages. Tout ce qu'on attendait de moi, c'était de comprendre, pas d'aimer. Lire était devenu une corvée. Il m'aura fallu attendre après l'université pour renouer avec la lecture, la vraie. Celle qui nourrit, qui transporte, qui surprend, qui émeut. Celle qu'on ne veut pas lâcher avant la dernière page. Agathe Topoula-Kabola, orthophoniste, chroniqueuse, conférencière et auteure, chargée de cours et chargée de clinique à l'Université de Montréal. La lecture n'a jamais été aussi nécessaire ni aussi fragile. Paradoxe de notre époque. Nous n'avons jamais autant produit de mots, mais jamais aussi peu lu. Les chiffres récents en témoignent. Les jeunes lisent de moins en moins. On blâme les écrans et les réseaux sociaux. Et si le problème venait aussi de la façon dont on présente la lecture, dont on la vit? Le million de mots manquants. La lecture n'est pas qu'un passe-temps. C'est une porte d'entrée vers le langage, la pensée, l'imaginaire. Une étude américaine marquante, The Million Word Gap, a montré que les enfants à qui on lit régulièrement entendent jusqu'à 1 million de mots de plus avant leur entrée à l'école que ceux à qui on ne lit jamais d'histoire. Ce n'est pas un simple écart. C'est un fossé linguistique et cognitif. Et ce n'est pas seulement la quantité de mots qui change, c'est aussi leur qualité. Il y a plus de mots rares dans les livres pour enfants que dans les émissions de télévision pour adultes diffusées aux heures de grande écoute. Cela signifie qu'un enfant exposé aux histoires entend un langage plus riche et nuancé. À l'inverse, un enfant qui n'a jamais accès à ce bain de mots risque de voir son vocabulaire et sa compréhension plafonner très tôt. C'est un cercle vicieux. Moins l'enfant comprend, moins il a envie de lire. Ou un cercle vertueux. L'effet Mathieu. Les enfants qui comprennent ce qu'ils lisent se sentent compétents et ont davantage le goût de lire. Les enfants qui grandissent dans un environnement riche en livres n'ont pas les mêmes chances de réussite scolaire que ceux à qui on ne lit jamais d'histoire. C'est donc un enjeu d'équité et de justice sociale. Lire à un enfant, c'est lui donner les mots pour se dire, pour comprendre le monde et plus largement, c'est lui donner le pouvoir de penser par lui-même. Un pouvoir que ni les algorithmes ni les raccourcis numériques ne pourront remplacer. Un goût qui se perd parfois dès l'école. À l'école, la lecture est souvent présentée comme un devoir. On demande aux jeunes de prouver qu'ils ont lu plutôt que de leur donner envie de continuer. Or, le plaisir est le meilleur moteur d'apprentissage. Pourquoi ne pas diversifier davantage les genres? Les bandes dessinées, les ouvrages de vulgarisation scientifique, les biographies et les livres musicaux peuvent être tout aussi formateurs que les romans. Et si nos jeunes lisaient davantage ce qui leur ressemble, ce qui les intéresse, ce qui les fait rire ou réfléchir? Les statistiques révèlent que les plus grands lecteurs de biographies au Québec sont les 75 ans et plus. Peut-être parce que nos jeunes n'y ont tout simplement pas été initiés. Peut-être parce qu'on leur a trop souvent dit que la vraie lecture, c'est celle des classiques. Pourtant, je ne connais pas un tout petit qui n'a pas été fasciné par la vie de Pelé ou de Terry Fox. Poser les bases de la lecture par la musique. Et si la clé du goût de lire se trouvait aussi du côté de la musique? Les neurosciences l'ont montré, les zones du cerveau qui traitent la musique et celles qui traitent le langage se chevauchent largement. Dès la naissance, les bébés réagissent à la mélodie des langues avant d'en saisir le sens. Ils imitent les intonations, les rythmes, les sonorités. Ce n'est pas un hasard si les tout-petits adorent les comptines. Elle combine rythme, rime et répétition, trois ingrédients essentiels à l'apprentissage de la lecture. Plusieurs études l'ont démontré. Les enfants initiés à la musique développent de meilleures habiletés de conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité à percevoir les sons qui composent les mots. Chat, par exemple, contient les sons ch et ils lisent plus tôt, comprennent mieux ce qu'ils lisent et retiennent davantage. Et pourtant, les enfants issus de milieux défavorisés ont souvent moins accès à ces apprentissages musicaux structurés, alors que ce sont eux qui en bénéficieraient le plus. Des bibliothèques ouvertes à tous. Les bibliothèques publiques sont des trésors collectifs. Mais elles ne profitent pas toujours à ceux et celles qui en auraient le plus besoin. Comment amener les familles qui ne la fréquentent pas à le faire? Les écoles et les garderies pourraient encourager systématiquement l'abonnement et la fréquentation de la bibliothèque de quartier, en relayant, par exemple, sa programmation mensuelle ou saisonnière. Dans ma pratique d'orthophoniste, je recommande d'emblée aux familles d'inscrire leur enfant à la bibliothèque municipale. C'est simple, gratuit, et cela change tout. Ce geste, s'abonner, choisir un livre, le rapporter, en prendre un autre, développe des habitudes, des rituels. Ce sont ces petits gestes répétés qui font naître les grands lecteurs de demain. Et plus tard, ces lecteurs se sentiront moins intimidés en entrant dans une bibliothèque pour y trouver un livre, qu'il soit obligatoire ou non. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des livres dans les écoles, mais de créer une culture de lecture qui déborde des murs scolaires, jusque dans les familles et les années préscolaires. Le romancier Graham Greene écrivait « Grande est la part d'avenir qui repose sur les rayons d'une bibliothèque. » Et si la lecture devenait enfin ce qu'elle aurait toujours dû être, un droit, un plaisir et un pont vers l'égalité des chances. C'était « Et si la lecture devenait une affaire de cœur, pas de devoir », un texte d'Agathopoulos-Kabbola, paru le 15 octobre 2025 dans « La presse ».